Merci d'être là ce soir. On va avoir une petite rencontre avec Johan Elliott. On va pouvoir se balader un petit peu dans sa bibliographie et puis il va tout nous raconter les dessous de Johan Elliott, écrivain. Voilà. Enfin bon, pas son caleçon non plus, mais Johan est né le 23 août, on peut le dire.
Un petit peu.
Voilà, 1970 à Besançon. On va peut-être s'intéresser à cette première période, puisque le premier bouquin date de 2000, donc il y a 30 ans entre la naissance et le premier bouquin. Est-ce que tu étais lecteur de science-fiction? Quels étaient tes auteurs? Quel est un peu ton substrat qui a fait ton imaginaire et qui a conduit à l'écriture?
Et alors, c'est un hasard heureux. Je succède pour cet exercice à M. Gérard Klein, et il se trouve que je lui dois la première découverte de la science-fiction, puisque c'est quand je suis arrivé au collège, en 81, qu'une prof de français m'a incidemment mis entre les mains un des volumes de la grande anthologie. Donc c'était Histoire de robots, ça je m'en souviens très bien, et voilà, ce livre, je me suis beaucoup forcé à lire ce livre, parce que j'avais 11 ans quand même à l'époque, et je venais pas d'un milieu de lecteurs. Et je l'ai lu entièrement, enfin chacune des nouvelles, je n'ai rien compris et j'ai adoré ce livre. C'était vraiment un choc. J'ai pris le même plaisir que quand je le trouvais au cinéma. Bon, c'était l'époque de la première trilogie de Star Wars, voilà. Et bien, j'avais les mêmes impressions. J'entendais des choses, je voyais des choses, ça m'a transporté toutes ces nouvelles avec ces robots. Et de là date vraiment ma passion, on va dire, pour ce genre de lecture. Donc ensuite, je suis devenu un gros lecteur de science-fiction. J'ai, en fait, pour autant que je me souvienne, je crois que je me suis fait un peu tous les volumes, la petite quarantaine de volumes d'Histoire 2, voilà, de la grande anthologie à l'époque.
Quels étaient un peu les auteurs, les thématiques qui t'ont un peu marqué là, dans ces années-là?
Alors après, outre ces auteurs, donc, c'est un peu tous les auteurs classiques, mais américains, dans l'histoire d'eux. Après, j'avais pioché dans les rares endroits où je pouvais trouver des romans de ces auteurs-là ou qui leur ressemblaient. Et donc j'habitais une toute petite ville où il y avait très peu de possibilités de trouver de la science-fiction. Donc je piochais vraiment au hasard. Autant je pouvais lire des classiques, qui étaient déjà des classiques dans les années 80, Van Vogt, Asimov, etc., que des nouveautés. Je me souviens par exemple d'avoir lu, peut-être à cet âge-là, vers 13-14 ans, je ne sais pas, des bouquins de Jeter, de cette nouvelle génération d'auteurs. Je ne comprenais pas forcément plus, mais j'adorais, voilà, toujours. Et donc je disais autant en même temps, voilà, les Asimov, Spielberg et autres, que les auteurs qui étaient traduits au milieu des années 80 en poche, parce que bon, il fallait que le livre soit accessible, pas les moyens.
On parle toujours un petit peu de ce qui a fait un petit peu ton imaginaire. Tu as cité les films, la culture cinéma, comment c'est venu? Pareil, tu étais un gros dévoreur de films.
Oui, et même plus, voire même plus que de livres, et depuis plutôt, depuis l'âge de 8-9 ans, j'ai l'habitude d'aller, dans ma petite ville, j'allais pratiquement tous les week-ends voir ce qu'il y avait, peu importe le film, j'allais dans l'unique salle de cinéma, voir ce qu'il me présentait. Donc je me prenais un petit peu tous les films de l'époque. Mais mes premiers grands claques, comme beaucoup de gens de notre génération, je pense, Star Wars, voilà. Et puis par la suite, je pense que les films de SF qui m'ont le plus marqué, le premier Terminator, les Aliens, enfin voilà, je suis un enfant de ces images-là, et ça ne m'a pas quitté depuis, parce que d'ailleurs, certains de ces films, je crois que je les revois régulièrement, toujours avec le même plaisir d'ailleurs, et ça m'inspire toujours énormément, l'imagerie SF de ces classiques.
Ouais, il n'y a pas longtemps, QSF a publié la liste de tes 5 films un peu préférés. Il faudra qu'on en reparle parce qu'il y a The Thing, il y a Mad Max, il y a aussi Rambo.
First Blood, vraiment, ça reste un classique. Le premier Rambo, c'est un pur chef-d'œuvre de film d'action. Il n'y a rien, il n'y a pas une seconde entre eux. Le montage est génial. Et je le revois régulièrement avec un grand, grand plaisir. J'assume. Hein, ouais.
Au niveau de l'écriture, à partir de quel moment tu as commencé, on sent bien, gros cinéphile, gros lecteur, à partir de quel moment tu as décidé d'écrire tes propres histoires?
Alors ça m'est venu au lycée, parce que j'ai eu la chance d'être très mal orienté dans une section qui me déplaisait, économie, bon, parce qu'il y a des économistes parmi nous, et donc je me suis énormément ennuyé au lycée, donc j'ai du temps, je m'ennuie, je vais écrire des histoires, donc, voilà. Vers l'âge de 17 ans à peu près, j'ai commencé à essayer d'écrire des nouvelles. Et comme j'avais été surtout influencé par la grande anthologie, par des nouvelles, je n'essayais d'écrire que du texte court, que des nouvelles, que j'étais incapable de terminer au début. Voilà. Il m'a fallu quelques années, jusqu'à l'âge, c'est vers l'âge de 20-21 ans, que je parvenais à mettre le mot fin au bout d'un texte court. Voilà. Et donc ensuite, j'ai persévéré toujours dans le texte court, puisque en gros, les 10 années qui ont suivi, jusqu'à l'âge de mes 30 ans, j'ai écrit exclusivement des nouvelles. J'ai eu la chance de pouvoir commencer à publier à gauche à droite, d'abord des fanzines. J'en avais créé un de mon côté, et puis j'ai pu me faire publier dans d'autres fanzines, etc. Et voilà, pendant 10 ans, je me suis fait la main, si on peut dire, uniquement sur des textes courts, sur des nouvelles, parce que très honnêtement, ça ne m'est jamais venu à l'idée de me lancer à cet âge-là dans un roman, ça me paraissait trop de travail. Voilà, tout simplement.
Ça c'était Joan Elliott avant Joan Elliott.
Oui, exactement.
On fait une parenthèse sur le pseudonyme. comment tu l'as choisi?
Alors, la première partie, Joan, très simplement, puisque ma femme se prénomme Johanna et elle est ma première lectrice, ma première supportrice, dans le sens du terme d'ailleurs. Et Elliot, c'était le nom de mon chien à l'époque. Et voilà. Et le jour où j'ai besoin de me construire un pseudo, les deux étaient présents dans la même pièce. Et avec l'accord de ma femme, j'ai accolé le nom du chien, qui portait déjà ce nom-là, un vrai nom, lorsque je l'ai adopté, je l'ai précisé. S'il avait porté un vrai nom de chien, si j'avais un chien qui s'appelait Sultan, j'aurais hésité quand même.
Ouais, t'as pas eu l'accord du chien pour aller.
Voilà.
Premier roman, donc on arrive en 2000, là nous sommes le 7. Quelle est un petit peu l'origine? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup tu te dis ok, c'est bon, les nouvelles sont publiées, j'ai passé ce cap-là, je passe au roman?
En fait, ça s'est passé un peu différemment. Pour autant que je me souvienne, ma mémoire est en ce qu'elle est, en fait, ce sont les filles de Mnemos à l'époque, Célia Chazelle et Audrey Petit, qui sont venues me voir sur un salon, qui connaissaient mes nouvelles à gauche à droite, et qui m'ont proposé, voilà, enfin, qui m'ont demandé si j'avais pas un roman de prêt. Je n'en avais pas, mais bien sûr, je n'ai pas voulu rater l'occasion de proposer quelque chose. Donc, je me suis lancé assez vite dans j'ai construit un scénario et j'ai écrit les premiers chapitres de La Nuit Seule le sait pour leur montrer en gros ce que je savais faire et ce que j'avais envie de faire, et ça, j'ai eu la chance que ça les a convaincus, et voilà, c'est parti comme ça.
Du steampunk?
Alors oui, mais sans le savoir. J'étais comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. À l'époque où j'ai écrit La Nuit Seule le sait, je ne connaissais ni le mot écronie et encore moins le mot steampunk. Simplement, j'ai été prof d'histoire quelques années avec une petite préférence pour le 19e siècle, et j'avais quand même lu déjà, je vous parlais tout à l'heure de Jeter, donc bien sûr j'oublie le titre, toujours. La machine à différence est sortie un peu après, je crois, mais Machines infernales, donc, voilà. Je suis très mauvais en titre, hein, mais j'avais déjà lu, si tu veux, ce qu'on appelle les bouquins qui ont lancé le steampunk, au milieu des années 80, qui avait été traduit en France. Donc il m'avait influencé, l'éditeur, jouer avec l'histoire, revenir au 19e siècle, c'est quelque chose de chouette. Simple, avec ceci que tout ce que j'avais lu qui s'intéressait à cette période-là, s'intéressait au côté victorien, ce sont des auteurs anglo-saxons, et même à l'époque, je crois qu'il était déjà paru, par exemple, il y avait l'anthologie de Daniel Erich, Futur antérieur, et comme mes petits camarades français s'intéressaient également cette forme du chronique, la plupart du temps, à de rares exceptions près, c'était aussi pour le côté victorien. Ça me paraissait un peu limité, parce qu'avec l'histoire qu'on a, avec le passé qu'on a, les personnages qu'on a, ils ont Wells, on a Verne, enfin voilà. Donc, je vais rendre hommage, moi, aux grands-pères fondateurs de la SF française, c'est pour ça que j'ai choisi Jules Verne, et puis Je vais essayer de faire la même chose, parce que j'avais du mal, mais du côté français, voilà, tout simplement, en fait.
Est-ce que tu savais dès le départ que ce serait plutôt une trilogie, et quand on voit tes premiers chapitres pour regarder Célia, tu as déjà tout ton plan de...
Alors non, alors là, à l'époque, j'étais parti complètement en roue libre, ça se voit sans doute, mais non, j'avais écrit donc, c'est ça, deux, trois chapitres, et puis j'avais une vague trame pour la suite, où je savais qu'il allait y avoir le voyage qui allait sur la Lune, qui allait rencontrer un tel, et voilà, mais j'avais pas idée de comment ça allait se terminer, non. Celui-là, les deux, trois qui ont suivi sont des romans qui se sont largement improvisés en cours d'écriture.
Il faut se souvenir un petit peu de l'époque, on est en 2000, donc tu apparais pour la première fois, le roman a plutôt une bonne réception.
La chance que j'ai eue, c'est que pour mon premier roman, voilà, il a été très bien reçu par le milieu que je connaissais plus ou moins, et surtout, donc il a reçu le prix Rognéné, qui est quand même le prix donné par les lecteurs pour le roman francophone de SF qu'ils ont préféré cette année-là. Donc voilà, pour un premier roman, ça m'a énormément... Enfin, je suis toujours très fier que ce livre se fait remarquer par les lecteurs. Voilà. Un vrai prix.
À l'époque, tu avais fait quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup, tu avais mis ton adresse mail à la fin du livre.
Oui, parce que je me suis très vite rendu compte que parfois, on est en activité très solitaire et les occasions de rencontrer les lecteurs, surtout au début quand on n'est pas connu, elles sont quasi inexistantes. Donc j'étais très avide de retour et donc j'en ai eu, mais plutôt positif, je dois avouer. Bon, personne ne m'écrit pour m'insulter, donc ça va. Mais c'était marrant. En revanche, j'ai eu plusieurs historiens, ou du moins ou chercheurs ou universitaires en lien avec l'époque que j'écris, qui se sont amusés à relever toutes mes erreurs très gentiment, voilà, et me signaler. Non, t'as le personnage qui est plutôt comme ça, ou attention, ou tout ça, mais voilà. C'était très agréable d'avoir cet échange, effectivement.
Un petit mot sur la suite, comment elle se dessine?
Alors, entre-temps, avant de revenir à la trilogie, j'ai déjà, si mes souvenirs sont toujours bons, écrit deux ou trois autres romans, une autre chronie, mais cette fois-ci qui s'intéressait plus à l'Antiquité romaine, mais toujours chez Mnemos, qui est donc mon deuxième roman, Reconquérant. Qui mélangeait fantasy et uchronie romaine, et puis également une sorte malgré tout une uchronie aussi au Bélial, dans laquelle je rendais hommage à Eugène François Vidocq, un personnage que je trouve toujours fascinant à tous les points de vue, un grand monsieur à mains égards, mais du coup, ça s'appelait Pandémonium. Voilà, toujours construit un petit peu sur la même manière que lui seul le sait, c'est-à-dire. Avec l'envie de rendre hommage à une époque et à des personnages et sans vraiment penser à leur construction. Voilà. Et ensuite, j'ai eu l'envie de revenir à l'univers de la Lune seule, mais en le décalant de quelques années, et donc en m'intéressant cette fois aux années 30, et en reprenant également le même procédé, c'est-à-dire à savoir mettre en scène autant des personnages historiques que j'aime ou que je déteste. Bon, là, en l'occurrence, on est les années 30, c'est la montée du nazisme. Je les déteste, hein, soyons clairs. En utilisant comme héros, comme personnages principaux, des figures du monde des lettres. Et donc, au lieu de Jules Verne, cette fois-ci, j'ai mis en scène un duo d'auteurs que j'admire autant pour leur œuvre que pour leur vie. Ils sont donc Albert Londres, donc le fameux grand reporter de l'époque, un écrivain remarquable, et Léo Mallet, dont je suis fan, et plus particulièrement de sa trilogie noire. Bon. Et d'ailleurs, le titre que j'ai choisi, le titre du deuxième, La Lune n'est pas pour nous. C'est un hommage à un des romans de la trilogie noire de Mallet qui s'appelle Le Soleil n'est pas pour nous. Voilà.
On arrive à Pandémonium, je voulais juste qu'on s'arrête. Oui,
vas-y. Oui.
Non, mais simplement, j'ai lu que c'est le premier qui devait être publié et il y a eu des détours.
Très honnêtement, je ne me souviens plus trop, mais je sais qu'il y a eu des problèmes de retard, je ne sais plus pourquoi. Il n'est pas impossible que je... Non, enfin, vraiment, le tout premier, ça reste la Lune, et le tout premier que j'ai écrit, Mais ensuite, oui, il y avait eu un objet un peu hybride chez De Noël en lune d'encre qui reprenait en fait deux très courts romans qui oscillent entre roman noir et fantastique que j'avais essayé de placer auprès d'éditeurs de romans noirs. Parce qu'initialement, on dit, j'étais un grand fan de romans noirs, je voulais publier du roman noir. On a un éditeur, on en décide autrement. Mais ces deux textes ont été écrits tout de suite après La Lune Seule, en fait. Ils sont restés 2-3 ans sous le coude. Et c'est en en parlant un jour à Gilles Dumais, il m'a demandé de les lui présenter. Il a aimé les deux romans, mais ils sont très différents. Il y en a un qui est plus dans un univers à la Stephen King, une petite communauté confrontée à un événement bizarroïde. Et l'autre qui est une sorte de roman noir avec un tueur, tout ce qu'il faut, etc. Très, très, très légèrement fantastique. Voilà. Et il a eu l'idée originale de les publier dans un même volume.
Obsidio,
voilà, je cherchais le titre aussi.
À ce moment-là, donc, on découvre qu'en fait, Joan Elliott non seulement aime l'histoire, qu'il est pointu sur certains personnages comme Vidocq, mais qu'en plus, le fantastique, la science-fiction, en fait, tu ne te limites pas. C'est-à-dire que tous les imaginaires sont ouverts pour toi.
Oui, ce sont tous les imaginaires qui m'ont forgé voilà, depuis que j'ai 10-11 ans, en passant de l'un à l'autre. Voilà, donc, je me suis encore posé la question. Tout naturellement, quand je me suis mis à écrire des romans, voilà, je brassais tous ces imaginaires.
Comment tu travailles quand tu mets en scène des personnages historiques aussi importants, par exemple, que Vidocq?
Ah ben, pour Vidocq, je me suis plongé dans une ou deux biographies, et puis dans ses propres œuvres, parce qu'il a beaucoup écrit lui-même. Des ouvrages très intéressants, c'est presque le premier auteur de romans noirs en France. Il écrit un bouquin superbe qui s'appelle Les Chauffeurs du Nord. C'était des bandes de brigands qui venaient chauffer les pieds avec des tisons des riches paysans dans le nord de la France pour leur faire avouer de planquer leur magot. Donc ils ont vraiment existé. Et il s'est basé sur ces faits divers-là pour écrire un superbe roman. Il a écrit un magnifique texte contre les prisons. Déjà à l'époque, il trouvait que. Il avait bien compris que la prison fabriquait le crime, il s'élevait la contre, enfin voilà. Donc j'ai relu son œuvre en fait, et puis des biographies, pour essayer de comprendre comment il fonctionnait. Voilà. J'avoue, je suis un peu aussi inspiré de Claude Brasseur dans la série, et son prédécesseur, c'était le deuxième à avoir interprété Vidocq, voilà, que j'avais vu quand j'étais gamin. J'ai mixé tout ça, voilà, tout simplement.
Et il faut beaucoup de documentation dès qu'on s'attaque à un roman de fiction sur l'histoire.
J'ai essayé de me limiter, parce qu'à la limite, bah, plus on va multiplier les personnages historiques, plus on a le risque de se perdre dans les ouvrages qui leur sont consacrés sur l'époque. J'essaie de sélectionner généralement un ou deux ouvrages par personnage principal, et éventuellement un ou deux ouvrages de référence, ou plutôt des articles de magazines comme l'Histoire ou Historia sur une époque ou sur un événement. Parce que je le connais, le piège, c'est que si on s'immerge dans trop de documentation, déjà, peut-être que certains passages du bouquin vont ressembler à un livre d'histoire, enfin, un manuel d'histoire, et c'est pas le but. Et puis, ça pourrait se faire trop de détails au détriment du récit. Donc voilà, donc je prends en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté avec la réalité en fait.
Pareil, quand tu. Alors, il y a évidemment ce point historique pour toi, et puis il y a aussi tout ce qui est science-fiction, ou. Je pense notamment à un bouquin comme Fear of Prime Time, que j'avais bien aimé, qui était dans une collection de novella Rocher, qui est un bouquin qui est intéressant parce que du coup, effectivement, il met en scène des clones de personnages historiques dans une espèce de télé-réalité, quoi. C'est-à-dire que là, t'es vraiment un. Pur auteur de science-fiction qui dit aussi des choses sur notre
présent. Ah ben oui, j'écris aussi de la pure anticipation ou science-fiction, oui. Voilà, cette petite novella, c'était pour me moquer autant oui, de toutes les stupidités de la télé-réalité, et puis pour réfléchir, je mets des guillemets quand même, un peu sur le clonage, puisque ça commence, j'imagine que le jour où on parviendra à cloner des êtres humains, ceux qui en auront les moyens seront plutôt alors des grandes chaînes de télé le feront plus pour un motif ludique qu'autre chose. Et j'imaginais une émission de télé du futur dans laquelle on fait débattre sur un peu tous les sujets des clones. Et ça commence sur un talk show sur la question du nazisme avec bien sûr le clone d'Adolf Hitler et le clone d'Elvis Presley. Lui passe toujours très bien à la télé. Donc voilà, vraiment c'est n'importe quoi, mais pas plus que ce qu'on voit aujourd'hui quand on allume. On a même ce petit écran.
se frotter à des personnages comme ça, historiques, c'est une pression supplémentaire pour les écrivains, ou est-ce qu'au contraire c'est très jouissif de mettre le King en scène, quoi.
Pour cet exemple-là, oui, non, c'est purement jouissif. Ouais. Je suis un fan du King, attention, faut pas nous couvrir. On ne déconne pas avec le King, jamais. Mais c'est purement jouissif, voilà, de jouer sur les toutes les représentations qui te racontent. Ce sont des icônes, en fait. Qu'on le veuille ou non, Elvis est une icône. Qu'on le veuille ou non, hélas, Hitler s'en est une aussi, hélas. Et voilà.
Une petite question, on va aller à la grande blague de Boot Silver en 2006. Wayne Barrow, donc écrit en duo avec Xavier Mégen. Comment est-ce que... Ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. Alors, c'est l'Uchronie sur l'Amérique, et puis c'est le travail à deux. Comment est-ce qu'on partage son imaginaire avec un autre écrivain?
En fait, ça s'est passé très simplement avec Xavier. Alors, juste pour la petite histoire, ce bouquin est parti d'une soirée dans un festival, pas celui-ci, l'autre grand festival. Et une fin de repas où on s'ennuyait, et on a commencé à... On s'est mis à parler cinéma comme on le fait toujours, et évoquant notre passion autant pour le western que pour le cinéma fantastique. Et très vite, on s'est dit, tiens, est-ce que ça existe, un western avec des vampires? Il y a un film, il y a Vorace, voilà, mais on ne connaissait pas d'exemple en livre. Et on a commencé à prendre des notes sur la nappe en papier du restaurant, voilà, à quoi ressemblerait l'histoire de l'Amérique si, à l'arrivée des pères pèlerins, une famille de vampires avait été dans le lot, voilà, tout simplement. Ensuite, concrètement, on s'est partagé, on a fait une liste de personnages et d'événements de l'histoire de l'Amérique que l'on tenait à mettre en scène. Les frères Dalton, qui ont vraiment existé, bien sûr, le tout inspiré largement du western. Le règlement de compte des chorales, une réalité historique aussi, enfin, tous les épisodes qu'on voulait mettre, on s'est partagé chacun de ces épisodes par affinité. On a ensuite écrit, parce que le roman est assez particulier, en fait c'est une succession de scènes historiques avec des personnages récurrents. On les écrit chacun dans notre coin, chacun a lu ce qu'avait fait l'autre en donnant ses petites remarques pour pouvoir harmoniser le style. Et voilà, non, ça s'est vraiment fait très, très simplement.
C'est facile de partager son imaginaire avec un autre auteur, c'est plutôt un boulot solitaire normalement.
Oui, il se trouvait que vraiment ça partait d'une passion commune pour les mêmes œuvres, les mêmes films ou les mêmes événements. Donc vraiment ça a été très facile. Et en plus, on a des approches, même si on avait des approches techniques, si je puis dire, a priori très, très différentes, mais elles étaient beaucoup complémentaires. Donc, après, c'est vrai qu'il ne faut pas se livrer à l'exercice, il faut laisser son ego de côté, accepter le regard critique de l'autre. Il n'y a pas eu de problème avec ça, donc vous avez dit non. Donc, vraiment, je le répète, ça s'est fait vraiment, vraiment simplement.
Et le nom, Wayne Barrow, pourquoi?
Très vite, on s'est rendu compte que ce livre ne ressemblait pas à ce qu'on aurait fait chacun de son côté. Et vu le thème, donc revisiter toute l'histoire des États-Unis des débuts jusqu'au début du XXe siècle, ça ne pouvait être écrit que par un auteur américain. Donc là, on a un petit peu déliré, effectivement. Ça nous amuse souvent la façon dont les auteurs américains sont présentés en quatrième de couverture de certains. On aime bien mettre en avant que là-bas, ce sont des auteurs qui ont eu 1000 expériences, qui ont fait tous les sales boulots du monde. Et c'est ça qui en fait de grands auteurs. Donc on a un petit peu déliré là-dessus. Nous, on a imaginé donc, un auteur qui avait fui la circonscription du Vietnam, qui avait été bûcheron, qui avait imaginé tout un parcours un petit peu caricatural, mais qui ressemble parfois à ce qui est mis en avant, tout simplement.
Oui, une blague qui vous a quand même coûté le grand prix de l'imaginaire.
Mais du coup, voilà. Oui, comme quoi, voilà, même... on a travaillé sérieusement, mais au départ, effectivement, voilà, c'était un peu une blague, et du coup, on a eu cette heureuse surprise de décrocher, effectivement, le GPI, c'est... cette année-là. Voilà. Et c'est un livre qui reste aujourd'hui, je pense, un des plus grands succès de l'année dernière.
Autre, on va changer un petit peu d'époque. Je voudrais qu'on évoque France Atome, puis après on parlera des livres jeunesse. France Atome au XXe siècle. Alors, pareil, quelle est l'idée un petit peu de départ? Qu'est-ce que tu avais envie de faire?
Alors, donc dans France Atome, donc ma dernière uchronie, il y a 2-3 ans, je voulais donc revenir à l'uchronie, mais toujours mais en France, et m'intéresser à la période gaulienne, à une période donc plus proche de nous. Je crois que souvent les Uchronies n'osent pas dépasser bon, la Seconde Guerre mondiale ou ses suites. Et en revanche, je suis parti comme point de divergence. Je m'intéresse beaucoup à toute l'histoire de la conquête spatiale. Et à M. von Braun, bon, ex-nazi quand même, mais à qui on doit quand même l'homme sur la Lune. Sans von Braun, pas d'homme sur la Lune. Et c'est en m'intéressant, en lisant un jour un bouquin qui lui était consacré, ou un de ceux qu'il a écrit, il a écrit beaucoup de bouquins de divulgation sur la conquête spatiale, voilà, l'idée m'est venue d'imaginer qu'au lieu d'avoir été récupéré par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour développer leur propre programme de conquête spatiale, eh bien qu'il ait été récupéré par les Français, par De Gaulle, pour que le général puisse développer son propre programme de conquête spatiale en vue de... obtenir au plus vite son l'indépendance de la France par rapport à l'Amérique, etc. Donc voilà. Et en poussant mes recherches, je suis tombé sur des documents extraordinaires qui donnent les véritables projets qu'avait von Braun. Au-delà, dans la réalité, bon, il a participé à l'élaboration des fusées qui vont porter des captures spatiales dans l'espace. Mais il avait en projet de construire en fait ce qui aurait été la première cité spatiale, la roue, une sorte de grande roue spatiale, qui est un petit peu d'ailleurs ce qu'on voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein, et il y a un excellent document, je crois que c'est dans les archives de l'INA, donc on trouve sur le net, où c'est une sorte de conférence filmée de von Braun à l'époque, et avec des maquettes, il vous présente sa roue spatiale. Mais bon, la NASA a très vite abandonné ensuite ce projet-là. Donc j'imaginais que simplement De Gaulle lui avait donné les moyens de construire ce genre de choses.
Oui, et pas que, parce que sacrilège, la France est devenue presque une dictature.
Ah ben, je me rappelle, le coup d'État républicain, quand même, de 58, De Gaulle, bon, voilà. Et puis, ma foi, par certains côtés, le général, c'était le général. Bon, non, certes, c'était pas une vraie dictature, n'exagérons rien, mais enfin, par moment, voilà. Et bon, moi, j'ai poussé le bouchon plus loin, puisque bon, par rapport aux événements d'Algérie, là, j'ai des choses beaucoup très différentes, et pour le coup, qui virent au drame et à la dictature, enfin, plus que dans la réalité. Voilà. J'ai vraiment fait dévier les choses, et j'ai fait vraiment de De Gaulle le vrai dictateur qu'il aurait pu être, qu'il n'a pas été dans la réalité. Voilà.
On va en parler sur la jeunesse, mais... Est-ce que tu te considères, sur ces bouquins-là, où on voit bien qu'il peut y avoir tout du moins un message, que tu te considères comme un auteur un peu un message ou qui glisse quelques idées, quelques messages?
Oui, alors c'est jamais l'intention première. Voilà, je ne l'écris pas avec un drapeau dans la main, mais immanquablement, d'ailleurs, je pense que c'est le point commun. Tous les récits de science-fiction, il me semble, très peu échappent à cette règle. Malgré tout, on éprouve le besoin de pointer tel ou tel problème, donc de dire quelque chose, donc de donner notre avis. Voilà, mais ça ne va pas plus loin. Hein. Voilà, ce ne sont pas des pamphlets, ce sont des récits avant tout. Mais même en jeunesse, chaque anticipation, ça part toujours de toute façon d'un problème réel, de quelque chose qui me gêne dans notre époque. Et que je transpose en vision cauchemardesque dans le futur pour dire voilà, attention, oui, ça, j'assume ce rôle-là. Je pense que c'est de toute façon le rôle, oui, c'est un des rôles, un des costumes de l'auteur de SF, quoi qu'il en soit, qu'il le veuille ou non, à mon avis. Là.
Alors, justement, on va se balader un petit peu en jeunesse. On va parler d'abord d'Ado sous contrôle, un petit roman. Qui imagine un camp de rééducation pour les ados, pareil. Comment est née l'idée? Et puis, est-ce que c'est facile de mettre en scène des ados?
Alors, justement, l'exemple tombe bien pour montrer comment est née l'idée. Je suis parti de la réalité. J'ai dit tout de suite, voilà, je vais toujours passer des petits messages par rapport à des situations réelles, des choses qui existent aujourd'hui et qui me choquent, qui me révoltent. Simplement, un jour, en lisant, plus que le magazine de reportage, je découvre l'existence aux États-Unis des camps de rééducation pour adolescents difficiles. Donc pas des camps où, dans lesquels on envoie des ados qui sont condamnés par la justice, bon, ça existe aussi, mais simplement des camps dans lesquels les parents dépassés par leur ado pendant la crise d'adolescence classique, s'il y en a parmi vous, se débarrassent de leur fils, de leur fille, et l'inscrivent, assez cher, pour un stage de rééducation qui peut durer quelques semaines, toute une année scolaire, hélas pour certains. Et le pauvre gamin se trouve enfermé et soumis à des traitements vraiment ignobles, puisque dans le reportage auquel je fais allusion, on citait le cas d'un groupe de filles d'une quinzaine d'années qu'on avait obligé à faire une marche forcée dans le désert, un camp au Texas, et l'une d'elles est morte. Voilà. Il y a des victimes tous les ans encore de ces camps psychologiques et physiques. Je vous dis, avec un tel sujet, il doit exister plein de fictions. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. À l'époque, on est en 2006. Donc aucun bouquin, aucun film. Il n'existe depuis. Je vais m'emparer du sujet pour en parler. J'ai trouvé deux documentaires, en fait, sur les deux rares fois où des caméras avaient été autorisées un peu à en pénétrer dans ces camps ou à interroger des gens, des jeunes qui étaient passés. Et j'ai construit mes personnages, alors à partir de mes personnages d'ado, à partir à la fois donc de ce témoignage, et également à partir de mon expérience de prof. J'ai été quelques années prof dans un lycée professionnel un peu difficile, et j'avais de rudes gaillards en face de moi, et donc je me suis un peu inspiré de la crème, si je puis dire, voilà, pour créer mes personnages, parce qu'il me fallait vraiment une bande d'ados très très difficile.
Parlons un petit peu de cette partie un peu jeunesse, qui est une partie importante dans ton travail. Est-ce que tu travailles de la même façon et avec les mêmes intentions pour les romans adultes ?
Globalement, oui. Une partie de mes romans jeunesse relève aussi de l'Uchronie, donc avec le même procédé, c'est-à-dire un petit peu de documentation autour des personnages et des événements principaux. Et puis, l'autre partie, donc, c'est vraiment SF anticipation. Mais en partant toujours d'événements réels, donc on a cité les camps de rééducation, donc là on lance une série chez Gulfstream autour de l'intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir tôt ou tard, du concept de singularité, des machines qui se rebellent, le thème de science-fiction, donc j'ai essayé de remettre au goût du jour. Et là à nouveau, je me suis plongé dans certains magazines scientifiques. Pour cette série-là, je suis même parti d'un hors-série, alors, je ne sais plus de Science et Avenir ou je ne sais plus lequel, qui s'amusait dans lequel des scientifiques s'amusaient à scénariser une douzaine de scénarios catastrophes pour le futur. Et il y avait donc le scénario catastrophe, le jour où effectivement les machines deviennent trop intelligentes et prennent le pouvoir, mais c'était écrit de façon sous forme de prospective très très sérieuse, alors, je suis parti de ça. J'ai mélangé avec quelques-unes de mes influences au cinéma, tout à l'heure, Terminator et autres, et pour essayer de construire mon projet. Voilà comment je me pose pas la question de savoir au départ, même quand je le sais, si le livre sera publié pour la jeunesse ou pour la vieillesse. Je vais vraiment travailler de la même façon.
Parlons justement de Ciel, tu nous as donné un petit peu l'idée de départ. Donc cette intelligence artificielle impose quasiment une dictature écologique.
Ah ben, une dictature verte, oui. Je ne fais pas partie de ceux qui fustigent les Khmers verts, hein. Au contraire, je suis plutôt tendance à l'être moi-même. Mais voilà, j'imaginais que cette intelligence, une fois, bon, elle a accès au futur d'Internet, donc à l'ensemble des connaissances, si on veut. Elle fait un bilan très rapide de l'action de l'humanité sur la planète. De toute façon, voilà, je vais vous faire un dessin, on sait où on va. Donc elle décide que pour donner une chance à une prochaine espèce dominante, il faut donc débarrasser. Voilà. Simplement, elle est quand même encore plus ou moins régie par les lois du bon docteur Asimov. Elle ne peut pas quand même éliminer directement les quelques milliards d'humains. Donc, elle va juste stériliser un petit peu tout le monde et attendre que l'espèce s'éteigne d'elle-même. Et entre-temps, quand même, recadrer un petit peu les choses, donc priver en fait toute l'humanité d'électricité, pour commencer, voilà, pour qu'ils arrêtent un petit peu leur bêtise. Et je me suis amusé donc à écrire le récit du basculement sur une année complète, en fait de l'humanité, de notre période à nous, à ce que j'appelle la nouvelle ère. Et c'est vu à travers donc, en fait, les cinq points de vue de cinq membres différents d'une même famille.
Le premier tome de cette série, si elle vient de sortir, il y en aura quatre. Il est assez sombre, pour le coup. Alors, on pose souvent la question aux auteurs, savoir s'ils sont optimistes ou pessimistes. Est-ce que toi, tu considères dans une catégorie, est-ce que tu as des écrits qui parfois sont aussi très sombres?
Je ne sais pas si je suis un pessimiste joyeux ou un optimiste triste, vous voyez, mais au jour le jour, je suis plutôt quelqu'un, voilà, d'assez tranquille et d'assez positif, mais j'ai de moins en moins d'illusions sur notre futur en tant qu'espèce. Donc,
Et Ciel, ce sera un petit peu ma dernière question sur la série, mais c'est une série, c'est assez rare chez toi. Est-ce qu'il y a une anxiété particulière à attendre les prochains tomes et à attendre la réaction au premier?
Là, c'était particulier, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, par rapport à l'ampleur du projet, on a très vite convenu, de toute façon, je voulais plusieurs volumes, et on a très vite convenu que ce serait 4 volumes, 1 par saison. Il me fallait de l'espace quelque part, si j'ai bien compris ta question, donc ici entre chaque volume il y a une... De toute façon je dirais il y a, quelle que soit la nouvelle parution, le one shot ou un volume de série, il y a toujours le petit moment d'appréhension, comment ce texte va être reçu, voilà. Là, bon, si elle s'est tout frais, je suis quand même content puisque les premiers retours que je vois sur le net sont positifs. Et c'est vrai, c'est pas présent. Quand le deuxième arrivera, je me reposerai la question à nouveau. Oui, c'est un moins probablement, mais bon, ça passe vite quand même.
Une des caractéristiques du travail en jeunesse, c'est la rencontre, pour le coup, avec les lecteurs et avec les ados. C'est un moment que tu aimes, c'est un moment parfois que tu redoutes, parfois ils sont... Ils prennent pas de gants, entre guillemets. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une partie du job qui est sympa pour toi?
Personnellement, j'adore ça. Aller rencontrer les ados, j'en suis très très friand. Quelquefois, ils sont, et c'est ce que j'adore chez eux, ils sont hyper cash. Quand ils n'ont pas aimé, on le dit frontalement, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Au contraire, ils sont enthousiastes, ils sont hyper enthousiastes, et c'est même 3, mais ça, on leur sort sur un petit nuage. Non, et puis ça me manquait le rapport avec les ados. J'ai pas d'ados à la maison, j'en ai pas autour de moi. Comme j'écris de plus en plus pour eux, déjà, c'est important de voir que je ne suis pas trop déconnecté avec eux aussi. Et à chaque fois, je suis rassuré, je perçois qu'on aime les mêmes choses, qu'on regarde les mêmes films, les mêmes séries, donc ça va, ça me rassure. Et puis non, c'est toujours hyper stimulant. À titre personnel, j'adore vraiment cet exercice.
Parle-nous un petit peu de ton boulot d'écrivain. Tu as plein temps sur les domaines de l'écriture. Comment tu t'organises et puis comment tu bosses concrètement au quotidien?
Alors, très concrètement, j'essaie de travailler le plus régulièrement possible. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise quand c'est devenu mon vrai métier. Donc, j'ai deux périodes dans la journée où je suis un peu plus concentré, donc ce sont les deux périodes où je parviens à écrire. J'écris à peu près 2 heures de temps en fin d'après-midi, et j'écris encore à peu près 2 heures de temps au milieu de la nuit, enfin, à partir de 10-11 heures jusqu'à 1 heure du matin, quelque chose comme ça. C'est les deux moments où je suis vraiment à fond dedans, voilà. Mais j'écris jamais plus parce que je ne peux pas. J'ai essayé au début d'avoir des journées de 6-8 heures d'écriture, c'est un truc de dingue, c'est impossible. Je ne pense pas qu'on y arrive. Et voilà. Mais en revanche, tous les jours, très régulièrement, pour que les projets avancent.
Ça veut dire que le reste du temps, c'est de la documentation, c'est derrière la tête, comment tu fais?
Le reste du temps, c'est beaucoup de glandes. Je suis très feignante par nature, donc c'est un peu aussi pour ça, je pense, que j'ai choisi ce métier. Le reste du temps, non, je présente, c'est vrai, mais une part de plaisanterie. Il y a effectivement toute la phase de documentation, mais qui ne prend pas énormément de temps, qui fait partie des lectures. Mais non, le reste du temps, c'est regarder des films et des séries, généralement.
Est-ce que tu as identifié un petit peu comment est l'inspiration chez toi? Est-ce que tu as réussi à identifier le...
Malédiction des micros, là, oui.
Est-ce que vous nous entendez si on parle fort?
Pas du tout. Ah, celui-là remarche. Alors oui, l'inspiration, en fait, c'est... 9 fois sur 10, c'est une lecture. Une lecture de presse, de magazine, voilà. Le point de départ d'un bouquin, 9 fois sur 10, un magazine historique, un magazine de reportage. Je dévore beaucoup de presse, moi. Je lis pas tout, mais je survole beaucoup sur tous les sujets. Et puis, je prends des notes, quelquefois. De temps en temps, ces notes finiront la corbeille. Et d'autres fois, je les ressors au bout d'un moment. Tiens, à partir de ça. Ensuite, quel genre d'histoire je peux raconter à partir de tel événement, de telle invention, de tel... tout simplement.
Les micros étaient défaillants. On va peut-être faire la séance de questions tout de suite. S'il y a des gens qui ont des questions pour Joanne. Oui.
Merci. Oui, moi je me demandais tout simplement, j'ai l'impression que vous partez de la fête lecture et ensuite vous racontez une histoire pour créer les personnages. Est-ce que ça vous est arrivé de faire le contraire, de partir de personnages et les inclure dans un cadre historique?
Alors, je réfléchis là tout le temps pour ne pas vous dire de bêtises, mais je n'ai pas souvenir non, d'exemple où je serais parti uniquement de personnages. Je l'ai fait une fois, mais pour une série fantasy historique, la série Le Tempestaire chez Gélu. Voilà. Là, je suis uniquement parti effectivement d'un petit groupe de personnages, et ensuite j'ai bâti l'histoire autour d'eux. En fait, pour celui-là, j'ai fait quasiment aucune recherche, j'ai vraiment tout imaginé. Oui. Et je crois que c'est la seule fois où je suis parti uniquement des personnages.
Et est-ce que ça vous paraît justement plus compliqué de partir de personnage ou plutôt de partir en fait historique pour elle?
Là, honnêtement, je ne me pose pas la question en termes de difficulté. Donc là, j'aurais tendance à dire non, ni l'un ni l'autre. Ensuite, une fois que le récit se met en place, généralement, ce genre de questions, j'essaie d'évacuer très vite. J'essaie même de me poser aucune question. Parce que si je me connais, si je commence à me poser des questions, je vais en poser de plus en plus, et finalement, je ne vais pas écrire énormément. Des questions, par exemple, je préfère me les poser après, ou en cours d'écriture, quitte à revenir, changer, modifier des choses, mais sinon, je ne démarre pas. Donc.
Est-ce que quelqu'un a une question pour Joanne Elliott?
Oui. Vous avez parlé d'improvisation sur le premier roman, La Lune seule le sait. Est-ce que c'est une part qui reste toujours présente dans votre écriture actuellement, ou est-ce que vous avez tendance à plus structurer, ou je ne sais pas.
Ça pas marché.
Maintenant, je structure de plus en plus, parce que quand même sur les 2-3 premiers romans, il y a eu des moments où je me suis fait peur. Je ne savais plus trop où ça allait aller, et donc ça m'a causé des problèmes. Donc maintenant, j'essaie de trouver un peu le juste milieu. Je construis une sorte de trame, une sorte de synopsis, mais encore, c'est pas vraiment ça. Disons, je pose quelques grandes scènes que je veux absolument mettre dans le roman, et j'essaie de savoir assez tôt, si possible dès le début, à quoi ressemblera la fin. Alors, pas dans le détail, mais disons sa tonalité générale. Et une fois que j'ai ça, là je me lance dans l'écriture, et comme ça, si jamais je me sens perdu un moment, ça me sert de guide d'écriture, ça me remet sur les rails en fait. Voilà. Donc il me faut toujours un minimum de structure, mais un minimum, parce que je sais que sinon, en cours d'écriture, il y a énormément de choses qui vont apparaître par elles-mêmes, donc il faut leur laisser la place.
Est-ce que quelqu'un a encore une question pour Jean Elliott? Trois fois. Yaciel, donc, qui sort là chez Delstream, le premier tome, le deuxième tome arrive incessamment sous peu. Sur quoi tu travailles, quel est le coup d'après un petit peu?
Alors, d'ailleurs, il faut que je travaille sur le tome 4. et en parallèle, chez Rajo, dans la collection Rajo Thriller, petite série, mais là en trois, hein, une petite trilogie, dont pareil, le premier est sorti à peu près en même temps que celle d'ailleurs, et là c'est de l'espionnage avec un petit peu d'humour et un petit peu de science-fiction, et aussi, voilà, et des clins d'œil, il y a beaucoup de séries d'ailleurs, et donc voilà ce qui m'occupe, ce qui va m'occuper pour un petit moment. Et puis ensuite, je vais écrire un petit roman d'horreur, jeunesse, pour Scrineo. Là, je vais me faire plaisir avec, bon, le zombie est à la mode, mais voilà, je ne m'y suis pas confronté, donc je fais un petit bouquin qui va s'appeler Collège Zombie, donc tout est dans le titre, hein, les professeurs deviennent des zombies, faut faire avec. Et puis, ben voilà, ce qui me vient à l'esprit, enfin, je vais m'occuper pour les mois à venir. J'en parle pas, c'est vraiment tout frais, il n'y a pas rien de signé, mais je vais revenir à un roman adulte, uchronique, conséquent, c'est sur les rails, voilà, mais ce ne sera pas avant 2016, donc j'en dis pas plus, mais il y a un projet, voilà.
Beaucoup d'imaginaire, est-ce que tu te vois dans d'autres genres, et puis beaucoup de romans, beaucoup de livres, mais pas beaucoup de BD ou de cinéma, est-ce que tu te verrais sur d'autres formats?
J'adorerais voir mes livres portés à l'écran, alors je ne sais pas si c'est partout au niveau quelqu'un. Merci. Non. Oui. Non. Bah, désolé, on va essayer l'autre, parce que je vais essayer de parler fort sinon, mais je doute qu'avec les retours... vous avez épuisé le...
On a épuisé les micros.
Alors je disais donc, j'adorerais effectivement voir mes livres portés à l'écran. Simplement, on est en France, des gens qui filment, qui produisent de la science-fiction, je ne sais pas où ils sont. Et les rares fois où il y a eu des exemples, je ne vais pas être méchant avec mes petits camarades, mais enfin, ça craignait beaucoup. Donc voilà. Bon, mais si quelqu'un a un lien avec des producteurs anglais ou américains, je suis preneur. Non, ça j'adorerais, ce serait génial. En BD, il y avait eu... J'avais essayé une fois avec un jeune dessinateur, on était parti sur un projet original, mais très vite je me suis aperçu que c'était écrire un scénario de BD, c'était vraiment des contraintes très particulières que je ne maîtrise pas, donc j'ai préféré abandonner parce que bon, ça ne partait pas très bien. Voilà. Bon, je suis très occupé par les romans, donc ça va.
Merci à tous,
oui.
Et puis merci Johan, puis tout de suite les dédicaces. Voilà, merci. Oui.